Le journal vous est présenté par Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. Les grèves à la SNCF, la direction annonce une reprise progressive du trafic au troisième jour de perturbation. Trafic normal pour les TGV et les trains Ouigo demain. Tous les billets impactés par ce conflit seront remboursés à 100%, promesse du PDG de la SNCF, Guillaume Pepy. Le gouvernement de Boris Johnson martèle que Londres sortira de l'Union européenne le 31 octobre, bien qu'il soit contraint par la Chambre des communes d'écrire à Bruxelles pour demander un report. Les élections législatives en Suisse et une percée historique des Verts. Dans l'Hérault, des toitures arrachées et des chutes d'arbres après une tornade impressionnante aujourd'hui. La disparition d'une grande figure de l'art contemporain, le chinois Wang Yongping, installé en France depuis 30 ans, auteur de monumentales et spectaculaires installations, notamment à Paris. Intersport à la fin de ce journal avec Fanny Lechevestrier. Et bien sûr, elle reviendra en détail sur le parcours du 15 de France, battu par le Pays de Galles 20-19 en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Français ont fait trembler les Gallois au Japon, mais un carton rouge pour Vaamaina a totalement déstabilisé le 15 tricolore.
France Inter.
Le trafic SNCF était encore perturbé aujourd'hui pour la troisième journée consécutive, conséquence du droit de retrait exercé par les conducteurs et contrôleurs. Après un accident de TER mercredi dernier, le gouvernement dénonce une grève sauvage. Les syndicats jugent que ce droit de retrait est légitime. Pour eux, l'absence de contrôleurs dans les TER pose un problème de sécurité. Il y a quelques minutes, Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, était l'invité de France Info. Il annonce des mesures pour les voyageurs qui n'ont pas pu prendre le train à cause de ce mouvement social.
J'ai décidé deux mesures très simples. La première, c'est que tous les billets, sans exception, sont intégralement remboursables à 100%, même s'il y a marqué dessus non échangeable, non remboursable, ou même si ce sont des billets Ouigo. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à voyager ou dont le train a été supprimé. Donc 100% de remboursement. Et puis la deuxième mesure, qui est tout à fait exceptionnelle, c'est que j'ai décidé de créer un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros pour nos voyageurs qui ont eu des dommages exceptionnels, par exemple des gens qui ont perdu une nuit d'hôtel ou qui ont dû dépenser une nuit d'hôtel, des gens qui ont été obligés de prendre un autre billet de train et qui ont payé un autre billet de train, voire un billet d'avion. Ce fonds sera créé cette semaine. Il sera donc effectif à partir de jeudi ou de vendredi avec une adresse mail particulière pour tous nos voyageurs qui ont subi ces dommages exceptionnels.
Voilà Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, et donc le remboursement à 100% des billets qui n'ont pas été utilisés par les voyageurs à cause de ce mouvement social depuis 3 jours. Quel est ce soir l'état du trafic à la SNCF? Quelles prévisions pour demain? On retrouve au PC Mobilité Adrien Serrière. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
La direction parle d'une reprise progressive.
Oui, mais le trafic ferroviaire reste quand même difficile ce soir, notamment dans le sud-ouest et en Champagne-Ardenne. Très peu de trains sont au départ de Troyes. Quasiment aucune ligne ne dessert Sedan, Brive, Narbonne ou Agen. Des départs des gares parisiennes sont également annulés en direction de Lyon, Nice, Mulhouse ou encore Tours. Il y a moins de perturbations dans le Nord-Pas-de-Calais et le quart nord-ouest. Demain, la circulation des TER restera réduite en Champagne-Ardenne, dans les Pays de la Loire, en Occitanie et en PACA, alors qu'en Alsace, le service devrait être revenu à la normale. Au niveau national, il faudra compter 2 trains sur 3. Ça concerne aussi les intercités et la situation devrait s'améliorer en cours de journée. Enfin, les TGV et les Ouigo ainsi que les Transiliens circuleront comme un lundi habituel. Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, l'a annoncé ce soir.
Voilà, au PC Mobilité, Adrien Serrière. Au cœur de ce conflit, la présence de contrôleurs dans tous les TER, c'est ce qu'exigent les syndicats. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, ne veut pas rouvrir ce débat sur la circulation de trains sans autre personnel que le conducteur. Sur BFM, il expliquait aujourd'hui que ce mode d'exploitation est très largement utilisé en Europe. Le problème de ces contrôleurs si rares dans les TER en France est aussi financier. Maxime Debs, bonsoir.
Bonsoir.
Cela concerne le budget de la SNCF, mais aussi les budgets des régions.
Oui, si l'on peut dire, les deux sont liés. Les régions, en fait, passent des contrats, signent des conventions avec la SNCF régulièrement. Les régions paient un prix qu'elles négocient avec l'entreprise publique. Cette semaine, par exemple, la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand, s'est engagée jusqu'en 2024 avec la SNCF. La région déboursera sur 5 ans 3 milliards d'euros, somme conséquente, mais qui prévoit justement le maintien de contrôleurs à bord des trains. Seulement, toutes les régions en ont-elles les moyens ou se les donnent-elles pour maintenir un effectif de 2 personnes à bord? Pas vraiment, pour Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire.
Les autorités organisatrices, que sont les régions administratives, ont le pouvoir d'imposer 2 personnes dans le train, c'est-à-dire un contrôleur et un conducteur. Seulement, si vous voulez, comme ces mêmes régions ont un double discours quand elles sont face à la SNCF, alors devant des économies, et quand elles présentent devant le grand public, elles disent que c'est la faute de la SNCF si ces trains ne sont pas équipés de 2 personnes, alors qu'en fait, le donneur d'ordre et le payeur, ça reste quand même la région.
Les syndicats pour qui l'ouverture à la concurrence va pousser de plus en plus vers des offres de services moins chères, avec toujours moins de personnel à bord, et on n'en est qu'au début.
Maxime Deps.
France Inter, Pierre Veille.
La Grande-Bretagne va-t-elle quitter l'Union européenne le 31 octobre malgré le vote des députés à la Chambre des communes qui hier ont repoussé leur vote sur l'accord de Brexit? Les Européens ont reçu ce week-end 3 lettres des dirigeants britanniques disant tout et son contraire. La première lettre, non signée, demande un report de 3 mois du Brexit. La deuxième, signée par Boris Johnson, dit qu'il ne veut pas de ce délai. Et la troisième, de l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne, Tim Barrow, précise que le report n'a été demandé que pour se plier à une loi. En dépit de cette situation ubuesque, le gouvernement Johnson proclame que la Grande-Bretagne sortira bien de l'Union européenne dans 11 jours. À Londres, Marina Daras.
Le vote historique de samedi devait enfin apporter une clarification après plus de 3 ans de tergiversation politique. Mais avec ces 3 lettres disant tout et son contraire, Boris Johnson semble avoir voulu gagner du temps auprès de l'UE. Downing Street devrait proposer un nouveau vote parlementaire lundi sur l'accord de sortie négocié par Boris Johnson. Et d'après les calculs du gouvernement, il aurait des chances d'être adopté. Si c'est le cas, le bras droit de Boris Johnson, Michael Gove, affirme qu'il n'y aura pas d'extension et que le Royaume-Uni sortira bel et bien de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Nous en avons les moyens et la capacité de le faire, assure Michael Gove, qui confirme également avoir déclenché le processus d'urgence en cas de no deal. Vent debout contre une nouvelle extension, Boris Johnson sera malgré tout obligé d'accepter un report de l'échéance si son accord ne convainc pas une majorité de députés. Une nouvelle semaine de débats et de votes s'annonce à la Chambre des communes, non sans rebondissement au vu des critiques de l'opposition sur l'accord Johnson. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Par dizaines de milliers, les Libanais sont descendus une nouvelle fois dans les rues en ce dimanche pour réclamer le départ d'une classe politique qualifiée d'inapte et de corrompue. C'est le 4e jour d'un mouvement de contestation inédit dans ce pays touché par de graves difficultés économiques. Cette protestation de masse touche de nombreuses villes, y compris la capitale, Beyrouth. Elle a été déclenchée de manière spontanée jeudi dernier par l'annonce d'une taxe sur les appels effectués via WhatsApp. Décision annulée aussitôt sous la pression de la rue, mais les manifestations n'ont pas cessé depuis jour et nuit. Les Suisses renouvelaient aujourd'hui leur Parlement en scrutin législatif et sénatorial au terme d'une campagne largement marquée par la question du changement climatique, alors qu'en 2015, la thématique migratoire dominait les débats. Selon les premières projections, la droite populiste arrive en tête, mais cède du terrain. Les formations écologistes sont en progression. À Genève, Jérémy Lanche.
2 partis seulement progressent dans les urnes, les Verts classés à gauche avec 12,7% des voix selon les premières estimations et les Verts libéraux plutôt à droite avec 7,6%. Toutes les autres formations perdent des électeurs, notamment l'UDC, le grand parti nationaliste de droite. Il reste en tête du scrutin mais il voit son influence s'éroder légèrement en Suisse alémanique où les Verts ont même réussi à lui prendre des sièges. Reste un constat, la Suisse n'aime pas les révolutions. Le basculement à gauche du Parlement n'a pas d'incidence directe sur la composition du gouvernement. Il regroupe 7 ministres issus des principaux partis du pays, 2 UDC, 2 socialistes, 2 libéraux radicaux et 1 chrétien-démocrate. Les Verts pourraient demander à entrer à l'exécutif, mais les ténors du parti font profil bas pour le moment, sans doute parce qu'ils savent que leur bon résultat dans les urnes n'est pas toujours confirmé lors des élections suivantes. Les Verts pourraient donc rester à la porte du gouvernement. Il sera nommé en décembre par les nouveaux élus. Genève, Jérémy Lanche, France Inter.
Les forces démocratiques syriennes dominées par les combattants kurdes ont achevé aujourd'hui leur retrait de la ville de Ras El Ain, dans le nord syrien, assiégée par les forces turques. Retour en France, l'Hérault a été touché ce matin par une tornade avec des rafales de vent. La dépression a circulé entre les communes d'Aspiran, Paulhan, Pézenas et Clermont-l'Hérault. Au total, une trentaine d'habitations ont été endommagées avec des toitures arrachées et de nombreuses chutes d'arbres. À Aspiran, au centre du département, 7 maisons ont été touchées. Témoignage du maire de la commune, Olivier Bernardi, interrogé par Pascal Victory.
Une tornade, comme on voit vraiment à la télévision, le ciel est devenu tout noir et des vents, juste après la pluie, un vent très très fort qui est arrivé, qui a traversé un lotissement comme un couloir et qui a arraché des toitures, des arbres et tout le mobilier urbain, immobilier privé, disons, table, chaise. Ça a été quelques minutes. Ça s'est formé sur l'autoroute Paulhan et pour aller traverser le village de part en part, mais heureusement sur le côté, non pas dans le centre ancien, mais sur... traverser la campagne et le lotissement excentré.
Vous avez pu rencontrer des personnes qui ont été directement touchées. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit?
Oui, la peur, vraiment la peur, peur de ne pas savoir quoi faire parce que on se croit en sécurité dans sa maison et en fait on s'aperçoit qu'avec les temps qui changent, on est à l'abri aucune part. Bon, moi je suis élu depuis 2014, j'ai vécu deux épisodes Cévenol en 2014. Il y a quelques années, ça avait traversé pareil. C'était le cimetière qui avait été le plus impacté et ça fait peur, disons.
Un nouvel accident impliquant une trottinette électrique. Un jeune homme a été tué et une jeune femme gravement blessée la nuit dernière à Bordeaux. La trottinette électrique sur laquelle il circulait a été percutée par une voiture qui a pris la fuite. Une enquête est ouverte, récit à Bordeaux de Mélanie Juvet de France Bleu Gironde.
Effectivement, pour tenter d'identifier le conducteur de la voiture, cet accident dramatique se passe vers 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Deux jeunes circulent sur la même trottinette électrique, quai des Chartrons. C'est au cœur de la ville, au bord de la Garonne. Là, ils se font percuter par la voiture. Les pompiers interviennent rapidement, mais le jeune homme de 25 ans qui conduisait la trottinette décède sur le coup. Sa passagère de 18 ans est-elle hospitalisée dans un état grave au CHU de Bordeaux? Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances exactes de cette collision. Les policiers de la brigade des accidents et des délits routiers devront les déterminer. Ce sont eux qui chapeautent l'enquête depuis le commissariat de Bordeaux.
Mélanie Juvet à Bordeaux. D'autres accidents mortels impliquant des trottinettes électriques ont eu lieu ces derniers mois en France. En septembre, un jeune homme est mort percuté par une voiture à Béthune dans le Pas-de-Calais. Et une jeune femme de 25 ans est décédée à Reims lors d'un accident avec une voiture. La disparition à Paris d'une grande figure de l'art contemporain, le chinois Wang Yongping. Il avait 65 ans, disparition alors que se déroule en ce moment la FIAC, la Foire Internationale de l'Art Contemporain. Il était venu en France en 1989 et il est resté chez nous. À l'époque, c'était la répression sanglante de Tiananmen à Pékin, un drame qui a fait basculer son destin. Jacqueline Petrous, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Wang Yongping est l'auteur, créateur de nombreuses installations, expositions très spectaculaires à Paris. Par exemple, au Grand Palais?
Oui, entre autres, bien sûr. Hein. Wang Yongping émet le monumental. Alors, né dans le sud de la Chine en 1954, son art est influencé alors par Marcel Duchamp et le dadaïsme. Il s'oppose à cette époque au réalisme socialiste. Il invente des mécanismes où l'œuvre est soumise au hasard, où il brûle son travail après l'exposition. Artiste de la métaphore, en 1987, il signe son œuvre iconique. Il met pendant 2 minutes à la machine à laver un livre sur l'histoire de l'art chinois et un sur l'art occidental. La pâte obtenue sera source de vie microscopique. La fertilité est là, dira-t-il. Naturalisé dans les années 90, Wang Yongping sera l'un des artistes à représenter la France en 99 à la Biennale de Venise. En 2012, il installe un long serpent de mer de métal dans l'estuaire de Saint-Nazaire. Et en 2016, il fait sensation avec Empire, une installation entre autres de 305 containers de couleurs empilés sous la nef du Grand Palais. Métaphore pour lui de la mondialisation. L'an dernier, il a réinstallé au Guggenheim de New York son théâtre du monde qui avait fait scandale en 95 à Beaubourg, une immense carapace de tortues vivarium où se dévorent des centaines d'insectes symboles de la condition humaine. Ce petit homme sec, souriant, avait une inventivité exceptionnelle. Certains même le surnommaient Maître Yoda, petit, puissant et magique.
Jacqueline Petrous sur l'imagination démesurée de ce créateur chinois, Wang Yongping, qui nous a quittés aujourd'hui. Il avait 65 ans et il vivait en France. Les couleurs du ciel.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Michel Golinski de Météo France.
L'épisode de pluie intense et orageuse sur un très large quart sud-est du pays continue avec de fortes précipitations sur l'axe Cévennes-Morvan qui auront tendance à s'atténuer en soirée en basculant vers la vallée du Rhône. Demain, ces fortes pluies, toujours mêlées d'orages, vont survoler le Jura, le Val-de-Saône et l'est du sillon rhodanien avec un vent de secteur sud très turbulent. Et naturellement, au gré du changement de la trajectoire des fortes précipitations, il faudra régulièrement surveiller l'évolution de la carte de vigilance. Sur le reste du pays, ce lundi, le temps sera assez chargé le matin au nord de la Loire avec de faibles pluies par intermittence. L'après-midi, c'est au nord de la Seine que l'ambiance sera la plus maussade. Enfin, sur les autres régions, dans un ciel assez variable, le risque d'ondées sera faible. Les températures, loin des gelées nocturnes, vont évoluer l'après-midi vers 15 degrés en moyenne au nord de la Loire ainsi que du nord-est à Rhône-Alpes, 17 du Limousin au sud-ouest jusqu'à 20 degrés à Marseille et 27 à Ajaccio.
Jean-Michel Golinski de Météo France et maintenant l'actualité sportive. C'est l'heure d'Intersport avec Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir à tous.
Et on va revenir bien sûr largement sur le parcours des Bleus lors de cette Coupe du Monde de rugby.
Si loin, si proche, c'est Bleu, le 15 de France de rugby qui a disputé ce matin de loin son meilleur match de la Coupe du Monde au Japon, mais vient mourir à un point d'une place en demi-finale, à un point de son adversaire du jour, le Pays de Galles, avec une défaite 20-19. Alors, avant de voir ce qui a cloché et de parler de l'avenir aussi, la déception forcément des joueurs, tel le Toulousain Johan Hugé.
C'est cruel, oui, parce qu'on s'était donné les moyens. Je pense que tout le monde a, malgré le carton rouge, a espéré jusqu'à la 75e. Et voilà, la fin est dure. La fin est cruelle, c'est le sport. Et peu de gens, encore même à 15, auraient cru qu'on allait livrer ce match-là. On l'a fait et on sort la tête haute malgré tout. Après, sur les 4 ans, c'est l'équipe la plus régulière qui... Il y a une logique dans le sport. Elle était respectée aujourd'hui, malgré tout.
Il n'a pas tort, hein, Johan Hugé, puisque ce sont les 4 meilleures équipes du monde sur le papier qui vont jouer les demi-finales de ce mondial avec l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, et l'Afrique du Sud. Mais tout de même, tous ceux qui ont vu le match du 15 de France face aux Gallois ne peuvent s'empêcher d'avoir des regrets. Bonsoir, Guy Akosseberry.
Bonsoir Fanny.
Consultant rugby de France Inter, ancien joueur de l'équipe de France, 8 heures après le dénouement cruel, est-ce que vous avez digéré cette nouvelle défaite, on va dire impossible des Bleus? On le rappelle, ils menaient largement au score.
Oh non, je pense que celle-ci elle va être très difficile à digérer. Je crois qu'il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années. Je crois même que les Gallois, peut-être eux aujourd'hui, ont fini par digérer celle qu'ils avaient perdue en 2011, là sur cette demi-finale qui avait eu... Exactement, qui avait eu à peu près, si ce n'est le même scénario. Donc je pense qu'il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça sera peut-être le fait que l'équipe de France soit capable d'aller chercher le titre de champion du monde en 2023 qui fera oublier ce match. Oui.
Mais parmi l'effet de jeu, Guy, il y a bien sûr ce geste idiot, hein, ce coup de coude de Sébastien Vaamaina sur un joueur gallois qui lui a valu logiquement un carton rouge et sans doute une très lourde suspension à venir. Alors avant d'avoir votre avis, écoutez la réaction d'un supporter palois.
En tant que professionnel, on n'a pas le droit de faire des gestes comme ça, c'est tout. C'est inadmissible. C'est lui qui nous fait perdre le match. Point. On a ce mec qui fout un coup de coude, voilà, terminé. On a perdu le match là, c'est tout. Point final.
D'accord avec ce supporter, Guy, dire que les Bleus ont perdu à cause de ce geste, est-ce que ce n'est pas non plus un peu trop facile?
Alors c'est sûr que ce geste a contribué en grande partie à la défaite de l'équipe de France. Après, il y a eu aussi d'autres petits détails qui ont fait que, puisqu'à... Comme disait Johan Hugé, à la 75e, l'équipe de France était encore devant. Donc, ça veut dire que malgré ce geste, elle était capable et en mesure de gagner ce match. Donc, après, il y a eu du détail, en fait, qui a fait que l'équipe de France, à la fin, perd. Mais ce geste est quand même le point le plus marquant de la défaite. Oui.
C'est impardonnable, sans accabler encore un peu plus le joueur, c'est impardonnable?
Ah oui, parce qu'il ouais, non, franchement, c'est moi, je l'ai dit en direct, là, pendant le match, c'est absurde et c'est une faute professionnelle parce que, dans l'action d'un match, on peut avoir un mauvais plaquage parce que ça va vite, parce qu'il y a de la vitesse, il y a le ballon, il y a l'adversaire. Sébastien Vaamaina avait fait une mauvaise passe toujours contre ses Gallois lors du dernier tournoi qui avait valu une interception et la perte du match. Et bon, là, on pouvait moins se plus en vouloir, c'était un geste technique. Là, vraiment, c'est une agression, mais en plus, une agression qui ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est dur, quoi. C'est un geste qu'il peut gommer, qu'il peut ne pas faire. C'est pour ça qu'on lui en veut. Les mots sont durs, mais ouais. Puis moi, je pense surtout au reste du groupe, quoi. Alors, ça me fait très compliqué pour lui personnellement, bien sûr, parce qu'il va s'en vouloir, il s'en veut énormément. Mais c'est très dur pour le groupe, pour le staff qui avait bossé, qui avait ce match en main et qui se voit passer une demi-finale de la Coupe du Monde de Solonais. Ouais, donc c'est compliqué.
Et on va justement parler de ce groupe avec cette génération, hein, des Picamol, des Guerrado, eh bien, qui ont reconnu les années noires du rugby tricolore et qui prennent leur retraite internationale sur ce nouvel échec. On pense à Guillaume Guerrado, le capitaine, 74 sélections, 10 années de galère en bleu et qui espère tout de même avoir laissé un héritage.
J'ai toujours attaché énormément d'importance sur le fait d'introniser les jeunes joueurs. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même important de rentrer dans la famille du 15 de France. Ça arrive à tellement peu de joueurs. J'espère avoir été aussi un bon mec avec les jeunes joueurs parce que je suis quand même assez taquin et beaucoup d'estime pour eux. Donc voilà, je suis très dur aussi avec eux. Toujours aborder le fait de prendre du plaisir et de la chance que l'on a de représenter son pays. Et ce soir, je leur ai dit ce que je pensais dans les vestiaires. Et voilà, ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils vont faire demain. J'espère et j'estime qu'on a mangé tout le pain noir durant ces quelques années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai le premier supporter du 15 de France.
Premier supporter du 15 de France, tout le pain noir mangé. Place effectivement maintenant à Guilla Kosseberry à la génération 2023. C'est comme ça qu'on va la baptiser avec ces jeunes hein, comme Damien Penaud, très en vue encore aujourd'hui. Romain Tamac, même s'il n'a pu jouer qu'une mi-temps. Antoine Dupont, c'est le point positif de ce mondial, tous ces jeunes.
Oui, bien sûr. Puis vous n'avez cité Fanny que des trois quarts, mais il faut penser à Charles Olivon, à Aldrit, voilà, à Jefferson Poirot, à
Demba Bamba.
Bamba, qui est le pauvre qui n'a pas pu participer à cette Coupe du Monde ou très peu, à Kamicha. Enfin voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui seront encore là en 2023. Alors la journée d'aujourd'hui est compliquée, mais pour tous ces jeunes d'être passés par ce mondial au Japon, c'est de l'expérience en magasinée et de l'expérience qui va leur servir dans les quatre années à venir et qui va surtout leur servir en 2023 lorsqu'ils vont retrouver ce genre de match pour les phases finales en France. Ouais, donc c'est important pour eux. Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres jeunes que l'on ne cite pas, qui ne font pas encore partie du groupe, mais qui vont intégrer ce groupe, et je l'espère.
Et qui seront coachés par Fabien Galthié, hein, l'adjoint comme les autres, qui va désormais prendre seul hein, les commandes de ce 15 de France. Une page de face donc se tourner pour les Bleus. Une nouvelle page du rugby mondial s'ouvre peut-être aussi aujourd'hui avec un hymne. Cet hymne que l'on va apprendre à connaître les prochaines années. C'était beau, c'était aujourd'hui, c'était l'hymne du Japon. Alors oui, l'équipe nippone a été battue cet après-midi, 26-3 face à l'Afrique du Sud. Mais elle a impressionné encore aujourd'hui et même dans la défaite en produisant du jeu et du spectacle. À l'avenir, Guy, en un mot, il faudra compter sur cette équipe du Japon.
Oh, mais je pense que c'est, on a senti une vraie ferveur derrière cette équipe. Le stade était plein. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont assisté au match Japon-Écosse et qui étaient encore aujourd'hui présents dans le stade pour le match contre l'Afrique du Sud. Ils ont été, ce sont des gens qui ont l'habitude d'aller dans des stades de rugby ici en France et même pour les matchs du tournoi. Hein, mais là, ils ont été conquis par ce public, par cette ferveur populaire. Donc, je pense que les Japonais maintenant doivent faire évoluer leur championnat, qui est un bon championnat, mais pas encore assez reconnu. Pourquoi pas intégrer une franchise dans le championnat de l'hémisphère sud, quoi. Et à ce moment-là, ce rugby ne demande qu'à éclore et surtout ce rugby a amené une vraie bouffée d'oxygène. Donc, on a vu des matchs intéressants avec peu de jeux au pied, de l'engagement, des passes, de la technique individuelle, de la vitesse. C'était rafraîchissant, voilà.
Ouais, donc,
ils avaient fait une bonne Coupe du Monde en 2015. Là, ils jouent en quart de finale et voilà.
Et on espère
les voir en demi en France.
Et vraiment, on espère les revoir, même si là, bien, on rappelle hein, les affiches de ces demi-finales. Pas de surprise. Angleterre, Nouvelle-Zélande, ce sera samedi prochain à 10h. Et puis dimanche à 10h, là encore, le Pays de Galles face à l'Afrique du Sud. Merci Guilla Kosseberry.
Intersport avec Fanny Lechevestrier, la suite et le football. Fanny, la pression est sur les épaules de l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
Oui, l'OM qui n'a plus gagné hein, depuis 4 matchs et qui s'apprête à clôturer la 10e journée du championnat de France de Ligue 1 ce soir en recevant Strasbourg. Marseille, 8e du classement, qui peut compter sur son meilleur buteur, l'Argentin Dario Benedetto, arrivé il y a 3 mois sur la Canebière et déjà le nouveau chouchou des supporters. Lui qui dit jouer toujours avec le cœur et en pensant à sa mère décédée lorsqu'il était enfant, alors qu'elle assistait à l'un de ses matchs à Buenos Aires.
Je suis heureux d'être dans cette ville, dans ce club qui a de grands supporters. Ça me rappelle plein de souvenirs, car les gens vivent pour le foot ici, comme en Argentine. Et j'aime beaucoup cette manière de voir le football. J'ai juste de la pression envers moi-même, car je veux tout le temps essayer de marquer. Mais je suis habitué à vivre avec ça. Et le plus important est que l'équipe gagne. Et on a conscience qu'il faut maintenant gagner.
Dario Benedetto et Marseille face à Strasbourg ce soir. Dario Benedetto, le nouveau nom à retenir dans ce championnat de France. Les autres résultats du jour en Ligue 1. Le deuxième succès de Claude Puel avec Saint-Etienne, 1-0 à Bordeaux. Et puis Monaco vient de s'imposer 3-2 face à Rennes au classement. Le podium est pour le moment occupé par le PSG, suivi de Nantes et de Reims. Le PSG qui décidément truste les premiers plans, puisque les féminines ont également pris seules la tête de la première division après le match nul surprise concédé par les Lyonnaises aujourd'hui, 0-0 face à Dijon.
On en vient, Fanny, à l'un des grands paradoxes de la voile. On peut être un grand champion, un grand marin, mais avoir toujours du mal à boucler son budget.
Et c'est ce qui arrive à Quito de Pavan, marin reconnu, 3 Vendée Globe à son actif, mais qui à une semaine du départ de la Transat Jacques Vabre court toujours après de l'argent. Quito de Pavan qui accumule les déboires après une grosse avarie sur son bateau, Fabrice Rigobert.
Lors d'un test obligatoire durant lequel il fallait coucher le bateau sur l'eau au port fin septembre, Quito de Pavan a vu le mât de son classe 40 se briser en trois parties. Impossible de le réparer ni d'en faire fabriquer un neuf dans les délais. Le skipper de Made in Midi a dû se résoudre à trouver un autre bateau en location. Le choix s'est porté sur celui de l'ancien perchiste Jean Galfion. Une situation à l'origine de coûts supplémentaires importants, 40 000 euros. Quito de Pavan a déjà récolté 20 000 euros en 10 jours depuis l'ouverture d'une cagnotte. Il partira à l'assaut de l'Atlantique, même si son budget n'est pas bouclé.
Globalement, c'est des dettes supplémentaires. On aura tout l'hiver pour les éponger. On trouvera des solutions plus tard. C'est clair que nous, si on avait eu de l'argent, on aurait pu racheter des voiles, refaire des trucs. Mais ça prend du temps aujourd'hui, ce temps-là. Malheureusement, on l'aura pas. Donc aujourd'hui, on va se contenter de ce qu'on a, même si voilà, si au niveau de la comptabilité, on serait plus à l'aise, évidemment, on serait plus serein si on arrivait à boucler la cagnotte qu'on a lancée il y a à peine 10 jours.
Avec son bateau d'origine, Quito de Pavan avait l'ambition de gagner la course. Le Camarguais, qui totalise une centaine de traversées de l'Atlantique, veut maintenant réaliser le meilleur résultat possible pour ses partenaires, en espérant que cette collecte ouverte sur le site de financement participatif KissKissBankBank limite ses pertes.
Et le départ de la 14e Transat Jacques Vabre sera donné dimanche prochain du Havre. Allez, on vous emmène à présent à la découverte d'un sport qui fait fureur en Angleterre, mais n'en est encore qu'à ses balbutiements en France. Est-ce que vous connaissez le walking foot ?
Du foot qui marche ?
Voilà, en français, c'est le foot en marchant. Ouais. Principale cible, les seniors, comme on dit, avec des clubs qui se développent, comme à Vitry-sur-Seine en région parisienne. C'est un reportage d'Adèle Belroumni.
Un foot au ralenti, c'est ce que donne la première impression du walking football. Après s'être affronté lors d'un match, Gérard, 54 ans, et Guy, 62 ans, sont conquis.
Ça me manquait, ça fourmillait en moi, j'avais envie de rejouer, et là je retrouve le bonheur de jouer.
7 ans que j'ai pas touché un ballon, et puis là je me suis pas entraîné depuis 7 ans. Ça te permet de bouger ton corps, sans courir, c'est bien.
Les règles sont simples, pas le droit de courir, pas le droit au contact, jeu au sol, mais Brigitte, 54 ans, avoue.
On gruge un peu, hein. On essaye de respecter, mais des fois, surtout quand on a joué au foot avant, c'est difficile.
Le football en marchant est une pratique mixte, se réjouit Brigitte.
Ça fait du bien, et c'est pas dans tous les sports, c'est très sympa de pouvoir se mélanger comme ça.
L'idée de promouvoir ce sport en France est partie d'un constat simple. Pablo Truptin, chargé de développement à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail.
En France, la plupart des gens pratiquent le football. Et pourquoi ils feraient pas du football arrivé à un certain âge ? C'est plus facile pour quelqu'un de refaire du football que d'aller faire de l'aquagym. Et on espère que ça va se développer, puisqu'il y a un gros vivier de retraités qui n'attendent que de rechausser les crampons, entre guillemets.
Alors qu'on comptait une vingtaine de pratiquants en 2016 en France, ils sont aujourd'hui plus de 350 à 9 mois d'un euro de walking foot qui devrait se tenir au Pays de Galles en juillet 2020.
Reportage d'Adèle Belloumri. Un dernier résultat à retenir, un retour gagnant. Andy Murray, premier titre en tennis depuis 2017. Il vient de s'imposer au tournoi d'Anvers en Belgique.
Intersport était présenté par Fanny Lechevestrier. Merci Fanny.